RFI 8h à Paris, 7h à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
Dans votre journal, Jeanne Bartoli, une avancée fragile mais saluée par des scènes de liesse à Gaza.
Et un cessez-le-feu arraché hier entre le Hamas et les autorités israéliennes. Des libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens sont dans la balance des mois qu'une telle annonce était attendue. La trêve doit entrer en vigueur dimanche. Cela intervient à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. Réaction dans ce journal à Gaza. Et puis nous serons aussi en direct d'Israël. Espoir des familles d'otages, même si les dissensions politiques se font déjà jour. Dans ce journal aussi, le dernier discours hier de Joe Biden aux Américains, discours en forme de testament politique, décryptage à Washington. À suivre l'inquiétude des centaines d'employés de la base militaire française au Sénégal, quel avenir, alors que le pays a annoncé le 31 décembre la fermeture des bases militaires françaises cette année. Et puis la France, où le Premier ministre François Bayrou affronte cet après-midi sa première motion de censure de la France insoumise, soutenue par les communistes et les écologistes.
Des dizaines de milliers de familles palestiniennes et israéliennes suspendues à l'accord de cessez-le-feu trouvé hier à Gaza.
Il n'entrera en vigueur que dimanche. Les derniers détails sont encore en cours de finalisation, a prévenu le bureau du Premier ministre israélien. Preuve de la fragilité de cet accord trouvé après des mois de médiations américaines, égyptiennes et qatariennes. La première phase prévoit la libération de 33 otages israéliens et de centaines de prisonniers palestiniens. Et après 15 mois de guerre, les plus de 2 millions d'habitants de Gaza ont laissé hier éclater leur joie. Scène de liesse. Écoutez ce témoignage de Louaï. Il habite actuellement à Deir el-Bala, dans le centre de Gaza. Il est joint par Sami Boukhelifa.
Il y a 1 500 000 déplacés ici à Deir el-Bala et dans la zone humanitaire. On est en pleine nuit et les gens sont toujours dans la rue pour célébrer cette annonce de cessez-le-feu. Vous savez, on n'a pas d'électricité, donc les rues ne sont pas éclairées. La majorité des gens n'osent pas encore sortir pour célébrer ce cessez-le-feu. Le danger est toujours là. Le cessez-le-feu a été annoncé, mais on ignore l'heure précise de son entrée en vigueur. Donc je présume que la guerre n'est toujours pas finie. Et d'ailleurs, nous entendons toujours des explosions au loin, probablement les Israéliens qui continue à viser certaines cibles.
Et témoignage à Gaza recueilli par Sami Boukhelifa. Gaza qui continue d'être bombardé par l'armée israélienne. La défense civile du territoire annonce la mort de près de 30 personnes, dont des frappes survenues après l'officialisation de cette trêve.
Et s'il est mis en œuvre, l'accord doit permettre à terme de tourner la page de ce conflit meurtrier.
C'était après le 7 octobre 2023. Israël lançait une offensive en représailles au massacre perpétré à l'aube du 7 octobre en Israël par les commandos du Hamas. 15 mois de guerre lors desquels 46 000 Palestiniens vont perdre la vie. Plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Alors à quoi ressemble aujourd'hui le territoire de Gaza? Réponse avec Daniel Valou.
Les bombardements israéliens et les incursions de chars et de soldats n'ont pas seulement semé la mort dans le territoire palestinien, ils ont également provoqué d'immenses destructions, forçant la population à des déplacements incessants dans des conditions épouvantables. Selon les Nations Unies, la quasi-totalité des habitants de Gaza ont été déplacés au moins une fois en raison des bombardements. Outre les destructions des bâtiments, la guerre a provoqué l'effondrement des infrastructures et notamment des systèmes de distribution d'eau et de courant électrique. Les hôpitaux pris pour cible durant le conflit sont également dans un état catastrophique, avec comme conséquence des situations humanitaires dramatiques dénoncées par toutes les ONG qui ont tenté de travailler dans le territoire durant le conflit. Selon les Nations Unies, il faudra une quinzaine d'années pour tenter de reconstruire Gaza. Et il en coûtera plus de 50 milliards d'euros. Et
Daniel Valou, la reconstruction de Gaza, c'est l'objet de la troisième phase de cet accord arraché hier soir. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
À Jérusalem pour RFI, on n'y est pas encore hein, Michel, à cette troisième phase. Le bureau du Premier ministre israélien indique que le Hamas tente d'obtenir des concessions de dernière minute, cherche notamment à imposer le choix de prisonniers à libérer. Il faut aussi formellement approuver le texte.
Oui, c'est en fin de matinée que doit se réunir en principe le cabinet de sécurité pour entériner l'accord conclu avec le Hamas. Et immédiatement après, le gouvernement israélien devrait donner un feu vert final à tous les détails inclus dans ce document. Actuellement, la coalition de Benjamin Netanyahou compte 34 ministres. Seules deux formations s'opposent à cet accord et ce sont les partis d'extrême droite d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, avec trois ministres chacun Ils ne peuvent pas donc à ce stade faire capoter l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui est prévu pour dimanche à la mi-journée. Mais pour Netanyahou, la question est différente. Les deux formations vont-elles quitter le gouvernement ? La décision pourrait être annoncée dans les toutes prochaines heures. De son côté, le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a indiqué que si tel était le cas, il procurerait au Premier ministre israélien un filet de sécurité parlementaire pour permettre une stabilité et assurer la mise en œuvre de l'accord dans sa totalité. Benjamin Netanyahou va donc devoir choisir entre les menaces de l'aile droite de sa coalition et les foudres de l'imprévisible Donald Trump.
Michel Paul, en direct avec nous de Jérusalem, merci. Et juste après ce journal, vous recevez Andréane.
Oui, on reçoit sur RFI le chercheur Hasni Abidi, mais aussi Yael Wies-Grisman, avocate franco-israélienne. Elle défend les victimes du 7 octobre, mais également Anouar Abou Eichi, ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne. Leur réaction, leur analyse sur cet accord annoncé hier, rendez-vous à 8h15, heure de Paris. Cet accord qui intervient, et ce n'est pas un hasard, hein, quelques jours avant la cérémonie d'investiture de Donald Trump aux États-Unis.
Donald Trump et Joe Biden qui avaient tous les deux intérêt à parvenir à cette trêve. Hier, le président sortant Joe Biden s'est exprimé depuis le bureau ovale, discours d'adieu aux Américains qu'on décrypte avec vous ce matin. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Alors Joe Biden a beaucoup parlé hier de l'histoire de l'Amérique.
Oui, au cours de cette allocution de 17 minutes, il a filé une métaphore expliquant que l'Amérique est un peu comme la statue de la liberté offerte par la France pour le centenaire de l'indépendance américaine, un symbole qui n'est pas figé mais qui bouge pour s'adapter aux tempêtes qui ne manquent jamais de se produire, un symbole pour les immigrants qui ont fait ce pays et un symbole de la flamme de la liberté dont les Américains doivent être les gardiens après lui.
Et Joe Biden qui a, sans surprise, Guillaume, évoqué et défendu son bilan.
Oui, parce qu'on n'est jamais si bien défendu que par soi-même et parce qu'il y a assez peu de monde en ce moment pour le faire à sa place. Les tout derniers sondages avant son départ montrent qu'il reste impopulaire. C'est pourquoi Joe Biden rappelle que sous sa direction, le pays est sorti d'une pandémie qui a fait plus d'un million de morts, que 17 millions d'emplois ont été créés, le plus haut total au cours d'un seul mandat, que jamais autant d'Américains n'ont eu accès aux soins de santé, que l'Ukraine reste libre pour l'instant, que la production de puces électroniques commence à être relancée sur le sol américain, que la loi sur les infrastructures va donner des résultats pendant des décennies et qu'on peine aujourd'hui à en mesurer l'impact final.
Alors 17 minutes de discours, vous l'avez dit, Joe Biden a également enchaîné les mises en garde avant la prise de fonction de Donald Trump.
Oui, et pour cela, il s'est mis dans les pas de l'un de ses prédécesseurs. Dans son discours d'adieu, le président Eisenhower avait mis en garde ses concitoyens contre la constitution de ce qu'il avait appelé à l'époque le complexe militaro-industriel. Eh bien, Joe Biden met lui en garde contre ce qu'il considère comme la constitution d'une oligarchie du pouvoir et de l'argent qui ne rêve que de profiter de règles qui ne s'appliqueraient pas à elle. Il s'élève aussi contre ce qu'il appelle le complexe techno-industriel, les grands acteurs des hautes technologies qui sapent selon lui la démocratie à coup de mésinformation et de désinformation. Il faut, dit-il, mettre les plateformes de médias sociaux face à leurs responsabilités. Pour Joe Biden, c'est un danger pour les jeunes, pour les familles et même pour la démocratie en elle-même.
Et comme un testament politique, il a appelé, Guillaume, à plusieurs réformes majeures.
Oui, pour lui, il faut réformer le code des impôts pour que les plus riches paient leur juste part, bannir l'argent d'origine inconnue du système électoral, fixer des limites au mandat des juges à la Cour suprême et réformer la Constitution pour empêcher que le président bénéficie d'une immunité pendant son mandat. Autrement dit, tout le contraire de ce qu'a proposé, demandé ou obtenu Donald Trump, pour lequel les Américains ont voté en connaissance de cause.
Et Guillaume Nodin, merci. Ce testament politique de Joe Biden, dernier discours du président américain, c'était le dossier du 8h que vous retrouvez sur RFI.fr. Et puis Joe Biden avait décidé mardi de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. À la surprise générale, cette décision américaine a été suivie ces dernières heures par la libération d'un premier groupe d'une vingtaine de prisonniers sur les 553 prisonniers que la Havane s'est engagée à libérer.
Le Premier ministre britannique à Kiev pour rencontrer le président Zelensky.
Keir Starmer doit signer un partenariat visant à renforcer les liens en matière de sécurité. Le partenariat d'une durée de 100 ans devrait porter sur le renforcement de la collaboration militaire en matière de sécurité maritime et faire de la Grande-Bretagne le partenaire privilégié de l'Ukraine, notamment dans le secteur de l'énergie. C'est ce que précise le cabinet de Keir Starmer.
La suite de ce journal, Jeanne Bartoli, qui nous emmène au Sénégal.
Où quelques 500 employés salariés sénégalais de la base militaire française s'inquiètent pour leur avenir alors que le Sénégal a annoncé le 31 décembre la fermeture des bases militaires françaises en 2025. Armand Cissé, délégué syndical des employés de la base, appelle les autorités sénégalaises à plus de clarté sur leur avenir. Écoutez, il est au micro de Fadima Sy de la rédaction Mandinkan Fulfulde de RFI.
Nous, la question qu'on leur pose, c'est, et nous dans tout cela, ont-ils prévu quelque chose de l'État français pour ceux qui sont en emploi direct? Ils attendent un plan social, comme cela s'est fait en 2011, quand il y a eu en fait le même cas. Parce qu'en 2011, on était sur l'ère des forces françaises du Cap-Vert avec un effectif de 1200 éléments militaires. Ils sont passés à 400 et nous, on est passé à 300. La moitié a été en fait déflatée. Mais ils ont pu bénéficier d'un plan social, un plan social pour les accompagner. Ce qu'on attend de l'État sénégalais, qui a pris sa décision souveraine, que nous respectons, nous attendons de l'État sénégalais un redéploiement de ce personnel-là, qui est professionnel, qualifié dans les services de l'État.
Armand Cissé, délégué syndical au micro de Fadima Sy de la rédaction Mandinkan Fulfulde d'RFI.
En France, le Premier ministre François Bayrou affronte cet après-midi sa première motion de censure.
Une motion de la France insoumise, soutenue par les communistes et les écologistes. Alors peu de risques d'être renversée puisque le Rassemblement national affirme qu'il ne la votera pas. De son côté, le Parti socialiste continue de tenter d'obtenir des concessions du Premier ministre. Journée cruciale donc pour le PS, seul parti de gauche qui hésite encore sur l'attitude à adopter, Victorien Villaume.
Quand les collègues du nouveau Front populaire sont déjà prêts à enterrer le gouvernement Bayrou, les socialistes s'obstinent à marchander leur voix contre des concessions. Mardi, ils n'avaient pas trouvé leur compte. François Bayrou ouvre donc la voie désormais à un potentiel retour devant les parlementaires de la réforme des retraites.
Il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces progrès.
C'est mieux, mais insuffisant. Le sénateur socialiste Patrick Kanner.
Le Parlement devra impérativement avoir le dernier mot et débattre de toutes les options mises sur la table. Nous voulons vous entendre clairement sur ces questions.
Le Premier ministre se dit également prêt à renoncer à la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. Là encore, le Parti socialiste maintient la pression. La députée Mélanie Thomas.
Nous attendons du concret. Il est de la responsabilité des cabinets ministériels de venir confirmer tout cela aux parlementaires.
Le PS, divisé en interne, enchaîne les réunions depuis deux jours. Mais un élu socialiste l'affirme, une position collective du groupe sur la censure sera arbitrée ce jeudi.
Victorien Villaume du service politique d'RFI. Enfin, c'est leur manière de résister à l'invasion russe. Le groupe ukrainien Dakabraka est en tournée dans toute la France en janvier au carrefour des styles. Leur musique traditionnelle mêle les influences du monde entier. Marius Lafont.
Donner, prendre, voilà ce que signifie Daka Braka, le nom de ce quatuor ukrainien éclectique. Trois femmes et un homme qui se sont rencontrés à Kiev en 2004. Ils ont arpenté les villages d'Ukraine avec un objectif, prendre autant de morceaux folkloriques que possible, leur donner de nouvelles sonorités issues du monde entier. Daka Braka conjugue l'énergie des fanfares des Balkans avec la finesse des musiques du Maghreb. Là, c'est un instrument qui trace un détour par l'Afrique de l'Ouest et puis encore une grande introduction minimaliste qui nous transporte dans une plaine du Kazakhstan. On ne sait jamais où on atterrit. Quasi exclusivement acoustique, les musiciens de Daka Braka jouent assis, sûrement pour mieux renverser les codes. Leurs vêtements traditionnels et leurs grandes coiffes apportent à leur musique une touche finale, un aspect théâtral.
C'est Marius Lafont et la tournée française de Daka Braka qui s'achève le 31 janvier prochain par une représentation à l'Opéra de Lyon.
Merci Jeanne Bartoli et à tout à l'heure RFI Matin. On est ensemble jusqu'à 9h et jusqu'à 8h30. Tout de suite, on revient sur cet accord entre Israël et le Hamas qui entrera en vigueur dimanche. Un cessez-le-feu à Gaza, la libération d'otages et de prisonniers palestiniens. C'est notamment ce que prévoit cet accord en trois phases. Nos invités dans trois minutes, mais d'abord coup d'œil sur la presse internationale. Frédéric Couteau à la une, l'espoir d'un répit au Proche-Orient.
Oui, soulagement mais prudence ce matin dans la presse. Il est peut-être prématuré de dire à l'instar de Donald Trump que la guerre est terminée entre Israël et le Hamas, mais c'est déjà une avancée considérable, pointe le Washington Post. Israël et le Hamas conviennent d'un cessez-le-feu à Gaza, suscitant donc l'espoir d'un répit. Cet accord pourrait constituer une première étape vers la fin d'une guerre qui dure depuis 15 mois et qui a détruit Gaza et divisé les Israéliens. Un accord orchestré en coulisses par les Américains, Joe Biden et Donald Trump s'en attribuent chacun le mérite. Reste que les deux hommes, souligne le New York Times, ont temporairement mis de côté leur animosité mutuelle pour atteindre cet objectif commun.
Entre joie et angoisse, s'exclame pour sa part, arrête sa Tel Aviv.
Désormais, estime le quotidien israélien d'opposition, l'accord complet doit être mis en œuvre afin de mettre un terme au massacre et à l'énorme destruction de Gaza. Le retour de tous les otages est une obligation suprême, mais mettre fin à la dévastation dans la bande de Gaza doit également être un impératif moral pour Israël. La guerre doit cesser, le temps est venu de reconstruire.
Le Jérusalem Post se réjouit également.
Ce n'est pas le moment de faire de la petite politique. Ce n'est pas le moment de se lamenter sur la libération de terroristes du Hamas, comme le prévoit l'accord. Gardons le combat pour demain. Pour l'heure, assure le Jérusalem Post, il est temps de ressentir l'étincelle d'espoir qui doit parcourir les familles des otages à l'idée d'être à nouveau réunis avec leurs proches.
Espoir, mais prudence encore pour Libération à Paris.
Cet accord marquera peut-être juste un répit dans le bras de fer entre le Hamas et le gouvernement israélien, mais chaque jour passé sans le bruit des armes à Gaza et chaque otage israélien récupéré vivant sont déjà des victoires énormes. Toutefois, poursuit Libération, une fois les quelques semaines de trêve écoulées, rien ne dit que les combats ne reprendront pas comme cela avait été le cas en novembre 2023 après une semaine de cessez-le-feu. Et surtout, l'avenir de Gaza n'est en rien réglé. À quoi ressemblera le jour d'après? Qui administrera l'enclave? Les premières réactions de Donald Trump sont à cet égard préoccupantes. Le président américain élu ne s'est félicité en effet que de la libération des otages et n'a évoqué les Palestiniens que pour asséner qu'il ne laissera pas Gaza devenir un refuge pour terroristes.
En effet, complète le Guardian à Londres, le cessez-le-feu pourrait ne pas tenir.
Car il sera extrêmement difficile de convenir de la deuxième phase. Pour l'instant, il n'y a aucun accord sur ce qui va se passer à Gaza et sur ce qui supervisera et sur qui supervisera le territoire. En mai dernier, l'ONU estimait que la reconstruction de Gaza coûterait 40 milliards de dollars et prendrait une quinzaine d'années. Tout sentiment de soulagement est amoindri par les souffrances passées et par les craintes pour l'avenir. Et pourtant, conclut le quotidien britannique, et pourtant dans cette situation désespérée, cet accord reste un pas en avant qui doit être accepté et exploité.
Merci Frédéric Couteau. Et jusqu'à 8h30, tout de suite, on revient sur cet accord. 15 mois après le 7 octobre 2023, l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien a sorti d'enlèvement d'otages aux mains du Hamas et l'offensive militaire meurtrière d'Israël qui a suivi. Avec nous, pour en parler, Hassni Abidi, politologue, Yael Vias-Gvirsman, avocate franco-israélienne, vous défendez les victimes du 7 octobre, fondatrice de l'association October 7, Justice Without Borders, et puis Anwar Abou Eiché, ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne et professeur de droit. Bonjour à vous tous et merci d'avoir répondu à l'invitation des RFI. À la fin d'un cauchemar, peut-on entendre à Gaza des scènes de liesse aussi, à Tel Aviv notamment. Yael Vias-Gvirsman, quelle est votre réaction au lendemain de l'annonce de cet accord de cessez-le-feu?
Oui, bonjour Adrienne. Je pense, je fais écho à ce qui vient d'être dit, soulagement et prudence, je pense que c'est la bonne voie. Je parle avec des familles d'otages qui attendent leurs êtres chers et ils sont bien sûr très heureux, très dans l'attente, mais ils sont aussi très craintifs, bien sûr. Jusqu'à dimanche, jusqu'à la mise en effet de l'accord, il y a peut-être 1000 pas à faire pour que cet accord ne soit pas rompu. Et on sait que les transitions sont difficiles, les moments des plus grands espoirs sont aussi les moments les plus délicats aussi.
Et d'autres otages resteront aux mains du Hamas et seront peut-être libérés par la suite. C'est aussi ça qui vous inquiète, Yael Vias-Gvirsman?
Absolument. Il ne faut pas oublier qu'il y a 65 otages qui restent entre les mains de ceux qui ont commis les attaques sanglantes le 7 octobre. et qui ont commis ce massacre, des personnes qui sont vivantes et mortes. Parmi les 33 otages que nous attendons, il y a à peu près 23 que nous savons vivants. Donc voilà. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier les 65 otages qui restent derrière. Ouais. Chaque vie compte.
Bien sûr. Anwar Abou Aïché, comment réagissez-vous de votre côté ce matin ?
Comme tout le peuple palestinien en diaspora et en Palestine, tout le monde est très content parce que les souffrances des Gazaouis ont été énormes. Il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de morts, beaucoup de destructions. Et tout le monde est très content qu'il y ait un arrêt de bombardement, un arrêt de massacre. C'est la joie partout et c'est une excellente nouvelle.
Alors pour l'heure, les bombardements continuent. On l'a appris encore ce matin par la défense civile à Gaza. 7 morts après des frappes israéliennes dans la ville de Gaza. Hasni Abidi, l'accord n'entrera donc en vigueur que dimanche. Déjà, on peut s'interroger sur ce délai. Mais surtout, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un retournement de situation ? Ou est-ce que d'après vous, là, on a franchi un cap ?
Cette fois-ci, on est dans le bon accord, mais oui, il y a un risque. De retournement, il y a un risque.
Le bon accord, ça veut dire pour vous, ça, c'est bon, ça ne va pas changer, ça ne va pas se retourner.
Ça ne va pas changer, mais pas en revanche, jusqu'à dimanche, le délai il est tout à fait normal, parce que dès le départ, il fallait donner 3 jours. Et puis les négociations pour la mise en œuvre de cet accord, même dans sa première étape, ne sont pas encore terminées, ce qui explique la présence encore de la délégation d'Israël, toujours au Qatar. Donc ces détails, ces mécanismes de mise en œuvre sont toujours à l'étude, et aussi il faut attendre, comme vous le savez, la réunion d'abord du cabinet restreint et ensuite du gouvernement israélien qui va et qui doit normalement, théoriquement, valider cet accord.
Théoriquement, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ça arrive.
On sait très bien que certaines voix au sein du gouvernement israélien ne sont pas du tout favorables à cet accord. Il constitue pour eux un échec et évidemment une validation des thèses du Hamas dans la mesure où c'est vrai que finalement les otages ne sont libérés pas suite aux opérations militaires seulement, mais surtout à des négociations. Et c'est un grand sentiment de gâchis puisqu'on revient finalement à l'accord qui a été perçu, conçu par Biden et aussi les émissaires, celui du mois de mai, qui a eu une validation au Conseil de sécurité. Donc pourquoi attendre tous ces mois pour arriver finalement à un accord qui existait déjà, qui était disponible. Je pense que c'est plutôt
C'est ce que j'allais vous demander, voilà, pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant, je ne vous cache pas, même si le président Biden, dans son discours d'adieu, se targue d'être vraiment derrière cet accord, moi je pense que le coup de pression exercé par Trump et sur son émissaire, M. Witkoff, qui est sur place, a joué un rôle déterminant. Le président Trump ne voulait pas, il l'avait annoncé, donc de commencer son mandat avec ce boulet, c'est-à-dire que des négociations qui traînent. On n'a jamais vu depuis le premier accord, donc depuis mois de novembre en tout cas, des négociations à aboutir au bout de très peu de temps. Donc il montre cette pression et il montre aussi, à mon avis, l'échec de l'approche de Biden. Je crois que le président Biden a échoué dans cet accord, à la fois d'être accepté, écouté par les Israéliens, mais aussi d'être aussi écouté par les émissaires, les autres émissaires, et surtout par le Hamas. C'est un gâchis, parce que tous ces mois-là, on aurait pu finalement à la fois alléger les souffrances des familles des otages et des otages, aussi eux-mêmes, mais aussi et surtout les souffrances des Palestiniens.
Alors, est-ce qu'on doit aussi regarder le rôle qu'ont eu les médiateurs dans cette affaire ? L'Égypte, le Qatar, il y a eu les États-Unis, on le disait. Est-ce que ça a joué ça ?
Il est déterminant. Ce rôle est déterminant. Le Qatar a exercé, le Qatar sous pression, il faut le dire que les Américains, c'est vrai, ont exercé une pression importante sur les deux émissaires et notamment le Qatar. Et le Qatar, souvenez-vous, cet appel venant du Premier ministre, en demandant même à ce que le bureau ferme provisoirement et que les dirigeants de Hamas quittent la capitale. Oui, il y a une pression cette fois-ci importante, qui a été d'ailleurs saluée par des proches du président élu Trump et la conjoncture. Hein, le Hamas n'est plus dans cette position-là, donc de refuser un accord avec les Israéliens.
Alors, Anwar Abu Aïché, l'autorité palestinienne a quelque part, pardon de ce terme, brillé par son absence dans toutes ces négociations et dans ce texte d'accord. Comment est-ce que vous analysez ça,
hein? Je crois qu'il y a une volonté israélienne et américaine d'affaiblir l'autorité palestinienne, en tout cas dans tous les domaines, ce qui est dommage, mais l'autorité palestinienne n'a pas cessé de travailler pour qu'il y ait un cessez-le-feu et pour qu'il y ait une solution partout dans ce monde. Et en tout cas, ça aboutit, c'est très bien, c'est déjà une excellente nouvelle, mais nous sommes là et je crois que personne ne peut contourner l'organisation de la libération de la Palestine qui est jusqu'à présent la seule représentante légitime juridiquement et politiquement.
Alors, un accord qui va se dérouler en trois phases, tout va beaucoup se jouer dans la première phase, puisque des négociations vont continuer lors de cette première phase. D'après vous, quel avenir pour le Hamas dans cette perspective, dans ces trois phases ?
Ben, tout sera joué quand il y aura des élections, parce que justement, l'autorité palestinienne, l'OLP, le peuple palestinien, nous voulons des élections aussi rapidement que possible, que ce soit à Gaza ou à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie. Nous travaillons actuellement pour préparer des élections et c'est les urnes qui décident l'avenir de tout le monde.
Alors, Yael Viasgvirsman, on parlait tout à l'heure de l'extrême droite israélienne qui critiquait cet accord, qui parlait de capitulation, qui pourrait faire peser un risque sur la bonne mise en œuvre de cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, il y a un risque effectivement que tout cela échoue à cause d'une partie de la coalition?
Oui, alors je vais dire un mot sur l'extrême droite israélienne. Avec votre permission, j'aimerais revenir sur un fait. J'aimerais qu'on mette de manière très claire, parce que j'ai l'impression qu'on s'est tous résiliés à des négociations avec des crimes contre l'humanité. Et c'est une réalité obscène. Donc, j'aimerais rappeler le fait que détenir des otages, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes avec, qui n'ont rien fait, qui étaient dans leur maison, qui ont été enlevés, ils ont été pris en otage, retenus en otage, la disparition forcée. Il s'agit de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Donc j'aimerais que ce soit rappelé comme point de base pour toute conversation. Et on maintient notre appel à une libération inconditionnelle et immédiate
et
à la
question
de ces criminalités.
Pour vous, Yael Viasgvirsman, la mise en œuvre de cet accord?
Après, le fait qu'on négocie, c'est une nécessité, parce que la vie est plus forte que tout, et c'est ça qui est sain, c'est la vie. Égypte et Qatar, ça montre juste ce que des hommes peuvent faire quand on leur met de la pression. Mais ils ont l'obligation de le faire. Pour l'extrême droite israélienne, vous avez raison. Il y a bien sûr des voix, nous avons le ministre Bezalel Smotrich qui est au sein du ministère de la Défense, sans avoir un rôle précis, mais aussi le ministère des Finances. Il fait des appels tout aussi obscènes au gouvernement. Il donne trois conditions. Je vais dire un mot sur ces conditions, mais je commence
rapidement, on a bientôt terminé. Quelques secondes.
Je vais dire que ces conditions, ils vont pas être maintenues. L'accord va, c'est pas ça qui va faire obstacle à l'accord de dimanche. Des obstacles peuvent survenir par des personnes qui vivent sur leur épée. Bien sûr, il y a toujours des spoilers à une résolution. Mais les appels de Smotrich, les trois conditions, sont bien sûr aussi, tout aussi obscènes que les actes du Hamas.
Et nous suivrons ça, évidemment, hein, la mise en œuvre de cet accord de cessez-le-feu annoncé hier, qui entrera donc en vigueur dimanche, on le disait. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu aux questions d'RFI ce matin. Restez avec nous, le journal, dans une minute.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin.
Qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Qu'est-ce qu'une mère ou un père peut tolérer, accepter, accueillir d'un enfant qui dévie de la route et de ses valeurs ? On en parle avec le film « Jouer avec le feu » qui montre un père impuissant à empêcher son fils de basculer dans l'ultra-droite.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.
Samedi, à partir de 15h10 TU.
RFI.
dans le forum d'Adjamé
à Grand Bassam,
RFI à Abidjan sur 97.6 FM,
au Camp Nou
ou au marché de la Boqueria,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM,
dans le quartier Nema,
dans la rue Javelier
ou le long de la rive du fleuve Casamance,
RFI à Ziguinchor sur 87.6 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.